Session La métaphysique aujourd'hui par le Père Marie-Dominique Philippe, le 3 juillet de l'an 2000 à Saint-Jodard.
Donc, comme je vous l'ai dit ce matin, le Père Philippe m'a demandé de remplacer simplement. Alors, je vais répondre à certaines et puis je pense que ça va s'éclairer petit à petit hein, tout au long de cette session. Alors, il y en a une qui est très importante, là, qui est posée, je pense que c'est revenu plusieurs fois hein, dans plusieurs de vos rencontres. Parce que c'est une chose que le Père a brièvement évoquée ce matin en cours et qui, de fait, est essentielle. C'est, pouvez-vous expliciter la différence entre l'intelligence et la raison ? Comment, dans les différentes modalités de l'intelligence, oui, on a évoqué ça ce matin, hein, les différentes formes ou développements de l'intelligence, artistique, affective, prudentielle, etc. Comment cette intelligence, dans ses différentes modalités, hein, dépasse la raison ? Alors, vous voyez, de fait, cette distinction, elle est très très importante à comprendre. Alors, je vais vous rappeler une chose que vous avez entendue ce matin, et elle est essentielle. Cette distinction, elle n'est plus faite à partir d'un certain moment hein, en philosophie. Oui, la distinction entre l'intelligence, en grec, l'expression que Aristote emploie, c'est le terme « nous hein, ». Vous entendrez peut-être ça dans la session. Hein. Il faut réveiller votre « nous », votre intelligence. Oui. « Noein », en grec, ça veut dire « penser hein. ». En latin, « intellectus ». L'intelligence et puis la raison. L'intelligence, on va le voir justement. Vous voyez, si on fait cette session, j'allais dire, c'est pour que vous découvriez ce que c'est que l'intelligence. Et Aristote a cette petite remarque, il dit, si on fait de la métaphysique, c'est pour découvrir ce qu'est notre intelligence et qui est Dieu. Seule la philosophie première, vous voyez, ce qu'on appelle la métaphysique, mais on va revenir sur ce terme, je pense, avec le Père, ou ce soir, ou demain, hein, seule la philosophie première, c'est comme ça qu'Aristote l'appelle, peut saisir l'intelligence comme telle, séparée du sensible. Vous voyez, donc c'est pour ça que le Père vous a lu ce matin cet article qui fait référence à M. Changeux qui dit hein, « Désormais, à quoi bon parler d'esprit ?» Parce que c'est vrai que si vous supprimez toute la métaphysique et qu'il n'y a plus que, même pas des sciences, hein, mais une idéologie positiviste qui ramène toute connaissance à la science, on va revenir sur ce terme dans un instant. Ben, vous voyez, l'intelligence, elle est inaccessible à la connaissance scientifique. Pourquoi ? On va revenir tout à l'heure. La science n'atteint que le mesurable, que la quantité, que le monde physique. C'est pour ça que vous voyez, un savant positiviste, c'est quelqu'un qui se contredit lui-même. Parce que s'il sait ce que c'est que sa science, il sait qu'elle est plus que la réalité matérielle. Donc dire qu'il n'y a que la science et que tout se ramène à la science, finalement, c'est se matérialiser. C'est pour ça que vous pouvez avoir des très grands savants qui sont matérialistes. La science, au sens moderne du terme, elle ne connaît que du mesurable, donc elle ne se fonde que sur le quantitatif, donc radicalement sur le monde physique qui est matériel. C'est pour ça que si je reste uniquement dans les sciences modernes, je ne saisis pas jusqu'au bout ce que c'est que l'intelligence. Je saisis un certain développement de l'intelligence, on va y revenir tout à l'heure, lié à la quantité et qui utilise les mathématiques. Mais la question est celle-ci. Hein. Est-ce que la connaissance humaine, ce serait une très belle question à se poser, est-ce que la connaissance humaine trouve son sommet dans la connaissance mathématique ? Et à tel point que pour Platon, pour d'autres comme Descartes par exemple, mais pour Platon, il fallait être mathématicien pour entrer en philosophie. Vous savez bien ce qui était écrit hein, au fronton de l'Académie, l'Académie de Platon, c'était marqué « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Pour Platon, il fallait passer par les mathématiques pour entrer en philosophie. Pour Aristote, non. La philosophie repose sur l'expérience humaine et non pas sur les mathématiques. Donc vous voyez, l'intelligence, pour Aristote, on ne saisit pleinement ce qu'elle est qu'en philosophie première. Alors ça, je ne vais pas devancer ce que nous allons faire cette semaine, mais je vous donne cette perspective. Oui. Si nous faisons de la métaphysique, c'est en vue de saisir le plus possible, le plus profondément possible, ce que c'est en nous que cette intelligence, hein, qui est en fait, mais on va revenir sur ce point, capacité, je ne vais pas le développer, je vous donne ça comme hein, une perspective, capacité de connaître la vérité. Et c'est pour ça que, quand on a vu ce matin, on a terminé le cours là-dessus, si vous vous rappelez, hein, il y a d'ailleurs une question qui est posée là-dessus, qui est aussi très perspicace, hein, c'est qu'il n'y a plus de science, au sens grand du terme, s'il n'y a pas d'abord une recherche de la vérité. Or, la recherche de la vérité, dans toute sa force, c'est ce qu'on essaiera de comprendre, elle sera dans ce rapport de l'intelligence et de l'être. Et les rapports de l'intelligence et de l'être, de l'intelligence et de la réalité existante, c'est ce qu'on appelle la vérité. Hein. On va y revenir, vous voyez, parce que on pourrait faire une session sur la vérité, hein, et vous verriez qu'il y a des philosophes qui ont des conceptions différentes de la vérité. Mais si on est un philosophe réaliste, la vérité, c'est que est-ce que ce que je pense correspond à ce qui est ? Et donc, la question fondamentale, et c'est très très important de se la poser comme ça, c'est quels sont les rapports entre la réalité existante et notre connaissance, notre intelligence qui cherche à connaître cette réalité. La raison, ce n'est pas ce qu'est l'intelligence. Oui, ce qu'est l'intelligence, c'est capacité de connaître la vérité. Je vous donne ça. Comprenez bien que, évidemment, ça demande d'être développé. Donc, on est là pour essayer de le creuser ensemble. La raison, ce n'est pas ce qu'est l'intelligence. La raison, c'est un mode humain de l'intelligence. Oui, toute intelligence n'est pas rationnelle. Si Dieu existe, oui, je dis ça, je parle ici en philosophe, si Dieu existe, nous verrons ça au terme de la session, nous verrons que son intelligence n'est pas une intelligence rationnelle. L'intelligence rationnelle, la raison, l'aspect rationnel, c'est le mode proprement humain de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que je suis homme et je dois développer ma connaissance à partir du sensible. J'ai donc une connaissance qui va impliquer l'abstraction, qui va impliquer le raisonnement, qui va impliquer l'affirmation et la négation, qui va impliquer la division, la comparaison, etc. Tout ça, c'est pourquoi ? Parce que j'ai une intelligence qui a un mode complexe. Mais, vous savez, il y a des choses bien heureuses. En Dieu, il n'y a pas d'abstraction, bienheureux Dieu. En Dieu, il n'y a pas de négation. Dieu ne nie jamais. La négation est proprement humaine. Mais, la réalité, elle ne nie pas. Elle est. Le non-être, c'est proprement humain. C'est l'intelligence humaine qui fabrique, par la négation, qui essaye de poser une négation absolue pour mettre en pleine lumière l'affirmation absolue. Vous voyez, par exemple, il y a une question très importante, je pense qu'on y reviendra avec le Père, ça, vous allez voir ça dans la session sûrement. Quel ordre mettez-vous entre affirmation et négation ? Ça, c'est capital. Et l'intelligence humaine implique composition et division, affirmation et négation. Vous voyez, par exemple, je vous fais un cours tout de suite. Ah, ça montre notre complexité. Parce qu'il faut passer par tout un développement, il faut se servir d'un langage, il faut ordonner sa pensée pour cheminer et découvrir la vérité. Si nous étions simplement un être purement intellectuel, si nous étions pur esprit, nous connaîtrions la vérité par un seul acte. Et en Dieu, son être, c'est sa vérité, c'est sa pensée. Oui, nous, nous savons très bien que ce n'est pas si commode. Et la raison fait que nous devenons intelligent. Et ça implique un devenir. L'intelligence humaine est celle qui connaît un développement, un devenir. Je ne vais pas aller plus loin pour le moment, mais c'est très important de bien voir ça. Et donc, la raison, ce n'est pas ce qu'est l'intelligence comme telle. C'est une manière dont nous connaissons parce que nous sommes des êtres sensibles. Et c'est du côté de notre manière de connaître. Alors voilà, vous avez une petite distinction sur laquelle on va revenir dans la semaine aussi, qui est fondamentale, que Aristote est le premier à faire, et que, hélas, aujourd'hui, on a complètement évacué de tout un développement de la philosophie. La distinction entre ce qu'est l'intelligence, et en grec, thiesti, qu'est-ce que l'intelligence, et le comment je suis intelligent comme homme. Ça, c'est en grec le pos. Oui. Le thiesti et le pos. Le qu'est-ce et le comment. Le pourquoi et le comment. Ça, c'est essentiel, voyez. Autre chose de dire qu'est-ce que l'intelligence, autre chose de dire comment je suis intelligent. Parce que comment je suis intelligent, je suis intelligent à la manière d'un homme. Un ange est intelligent d'une autre manière qu'un homme. Dieu est intelligent autrement que l'homme. Oui, la manière d'être intelligent. À cause de l'aspect de notre corps, oui, quand je touche cette table, mon intelligence est présente. Je dis ceci est, puis je peux dire, tiens, c'est de telle couleur, ça a telle qualité tangible, c'est lisse ou c'est rugueux, c'est froid ou c'est chaud, c'est agréable ou ça ne l'est pas. Vous voyez, je me sers de mon intelligence dans l'expérience. L'intelligence humaine se sert du sensible. Dieu est au-delà du sensible s'il existe. Il est esprit. Et donc, l'intelligence humaine, à cause du sensible, a un mode, oui, une manière de connaître qui est rationnelle. Alors vous voyez que si vous confondez les deux, vous confondez quoi ? L'aspect le plus ultime de l'intelligence, ce qu'elle est, et votre conditionnement humain, votre manière d'être. Là, je vous cite une petite phrase, et c'est d'ailleurs très important à ce sujet, parce que je ne l'ai pas nommé au début exprès, mais Saint Thomas s'est posé cette question. Il a dit, est-ce que entre l'intelligence et la raison, est-ce que ce sont deux puissances différentes de l'âme ? Il dit non, c'est la même puissance, la même capacité, mais la raison, c'est du côté de la manière de connaître qui est propre à l'homme. Parce que je suis homme et que je connais à partir du sensible, je dois accepter d'abstraire, de diviser, de raisonner, etc. Oui. Comme dit saint Thomas aussi, il dit, cette petite chose, vous pouvez retenir, c'est une excellente chose pour maintenir en nous une santé intellectuelle, parce que ça nous met dans une humilité. Il dit, Dieu qui est simple connaît d'une manière simple les choses compliquées. L'homme qui est complexe connaît d'une manière complexe même les choses simples. Oui. Tout à fait intéressant. Oui. Oui, connaît d'une manière complexe. C'est mon conditionnement humain. Oui, je prends un exemple, je rencontre une personne humaine que je n'ai jamais vue. Mais j'en ai pas une simple intelligence tout de suite. Oh non, non. Comme disait Aristote, il faut avoir consommé avec son ami toute une mesure de sel, donc avoir pris des quantités de repas ensemble pour dire qu'on est vraiment amis. Parce qu'il faut tellement de temps pour comprendre une personne. Et souvent, on a des a priori, on croit que « oui, je t'ai vu, je te connais, tu parles ». Tu ne connais pas du tout, d'ailleurs vous dites ça, tu ne me connais pas. Et parce que pourquoi vous avez besoin de temps, vous voyez, vous vous situez sous des points de vue différents, il y a tel aspect de l'expérience que vous n'aviez pas vu, etc. C'est complexe. Et notre intelligence se développe selon un mode qui implique une complexité. Donc vous voyez, ne pas confondre ce qu'est l'intelligence, on va y revenir, et comment elle se développe humainement. Quel est son conditionnement humain ? Là, je vous cite encore une petite réflexion de saint Thomas qui dit cette chose très forte. Il dit « L'erreur du néoplatonisme, je vous dis ça parce que je vais vous faire après une relation avec quelque chose qui est actuel, et vous allez voir que c'est très actuel, en fait, ça, comme distinction. » Il dit « L'erreur du néoplatonisme, donc de la philosophie de Plotin pour lui, l'erreur du néoplatonisme, c'est de confondre ce qu'on connaît et la manière dont on le connaît. » Qu'est-ce que je connais ? Ah, je connais l'être, et c'est ça mon intelligence, capacité de connaître ce qui est. Comment je le connais ? Ah, à travers toute une démarche. Et confondre ce qu'est l'intelligence et comment je connais, ça c'est la confusion qu'on trouve dans le néoplatonisme, mais c'est la confusion que vous retrouvez ensuite chez Descartes, qui dit que ce qui est premier, c'est la méthode. La méthode, est-ce que c'est ce qu'est l'intelligence ou est-ce que c'est le comment ? C'est du côté du comment. Et on retrouve ça ensuite dans la phénoménologie, par exemple chez Husserl, qui dit ça textuellement, dans la phénoménologie, c'est l'exercice, donc l'action de la pensée, qui donne la détermination. Ce qu'on connaît, c'est la manière de connaître. Donc on ne se connaît jamais que soi-même dans sa manière de connaître. Et si vous dites, l'intelligence et la raison sont distinctes, c'est pas la même chose, c'est la même puissance, mais sous deux aspects différents. Vous allez distinguer ce que vous connaissez et comment vous le connaissez. Donc, pour une philosophie réaliste, l'objet que je connais, la réalité que je connais, est antérieure à la méthode. La méthode est relative à l'objet. Et ça, c'est capital. C'est pour ça, et je vous dis ça parce que vous allez sûrement expérimenter ça cette semaine, c'est pour ça qu'en philosophie, il n'y a pas de méthode, au sens d'une méthode logique. Pour Aristote, la méthode de l'éthique n'est pas celle de la philosophie de l'art, n'est pas celle de la métaphysique, n'est pas celle de... Oui. À un autre objet de connaissance, une autre méthode. Parce que la méthode est du côté du comment. Or, le comment je connais est relatif à ce que je connais. Au contraire, pour Descartes, la méthode est première. Oui. C'est la méthode qui caractérise la science pour Descartes. La méthode passe avant l'objet. Alors ça, c'est très important de comprendre ça, oui. Parce que là, il y a un renversement... dont je crois on voit toutes les conséquences aujourd'hui. On va revenir là-dessus, parce qu'il y a des questions posées après sur ce que c'est que la science. Alors justement, avant je prends deux questions qui portent sur une autre expression qui est importante, puis après je reviendrai, parce que là il y a plusieurs questions après sur les rapports entre la philosophie et la science. Donc vous voyez, retenez cette petite distinction entre le qu'est-ce et le comment. L'intelligence, on saisit ce qu'elle est à partir de ce qui la spécifie, qui l'actue. Alors j'emploie des termes évidemment un peu qu'il faut peut-être expliquer, voyez, mais je vous donne un petit exemple. Pour connaître ce que c'est que la vue, je dois regarder ce que c'est que la vision en acte. Quelqu'un qui n'a jamais vu en acte, qui n'a jamais expérimenté la vision, ne sait pas qu'il a la capacité de voir. Ben, faites application du côté de votre intelligence. Quelqu'un qui n'a jamais posé un acte d'intelligence, ça peut arriver, il ne sait pas ce que c'est que l'intelligence comme capacité. Quelqu'un qui n'a jamais posé un acte véritable d'amour volontaire, il ne sait pas ce que c'est que la volonté comme capacité d'aimer. Je crois que la volonté, c'est une capacité d'efficacité, de maîtrise de soi, non ? Le jour où je sais ce que c'est qu'aimer spirituellement, ah, je découvre en moi cette capacité, oui. Ça, c'est élémentaire. C'est l'opération, l'acte, qui fait connaître les capacités que nous avons. Et cet acte, il est relatif à quelque chose qui le spécifie. Qu'est-ce que je vois de visible ? Je ne vois pas le toucher ou l'audition. Je vois le visible, la qualité visible. Qu'est-ce qui spécifie l'intelligence ? L'intelligence, l'acte d'intelligence, à quoi est-il relatif ? Ah, voilà toute notre question. On y reviendra, on verra ce lien entre l'intelligence et l'être. L'intelligence est faite pour connaître ce qui est. Alors, on reviendra sur ce point. Je ne développe pas maintenant, parce que c'est la session qui va nous y faire entrer. Et l'amour ? Qu'est-ce qui est l'objet de l'amour ? Qu'est-ce qui suscite l'amour ? Le bien, la personne bonne, capable de susciter un amour. Le bien, c'est ce qui suscite un amour. Je découvre la bonté d'une personne en l'aimant. Et en aimant, je découvre cette capacité d'aimer qui est en moi, qui est la volonté. Alors ça, vous voyez, c'est l'intelligence, je peux saisir cela. L'intelligence, capacité de connaître ce qui est, capacité de connaître la vérité. La raison, c'est du côté du comment mon intelligence doit-elle procéder pour connaître ce qui est. En se servant des concepts, de raisonnement, d'abstraction, etc. Vous voyez, donc, que confondre le comment et le qu'est-ce, c'est ne plus voir ce que c'est que la vérité. C'est ramener l'intelligence à une méthode. C'est ramener l'intelligence à un discours rationnel, à un système de concepts, etc. Vous voyez. Par exemple, vous voyez, parler de système philosophique, mais c'est contradictoire dans les termes. Si la philosophie est un développement de l'intelligence qui cherche la vérité, il n'y a pas de système philosophique, ça n'existe pas. Un philosophe qui parle d'un système, il n'est plus philosophe, je crains. Je crains qu'il soit devenu un idéologue. Parce que c'est un idéologue qui fait un système. Un philosophe, il est relatif à la réalité existante qu'il ne mesure jamais. Il la cherche tout le temps. Il cherche à la connaître et il accepte ce labeur, cette patience que l'on devient intelligent. Qu'on doit accepter ce cheminement pour découvrir toujours plus profondément la vérité. C'est une quête incessante. C'est pour ça que quand on entre en philosophie, on ne peut jamais dire qu'on a compris parfaitement. On a découvert certaines vérités, mais on sait qu'on peut toujours aller plus loin. Et la recherche de la vérité, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, le jour où on a découvert ça. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède. Oui. Parce que quand vous dites philosophie à beaucoup de gens, pour eux, philosophie égale, vous n'avez qu'à demander des élèves qui sortent de terminale. Philosophie égale opinion, philosophie égale système, philosophie égale certains concepts. Qu'est-ce qui dit encore aujourd'hui que la philosophie, c'est une recherche de la vérité qui va jusqu'à la sagesse ? Oui. Très, très peu. Donc, vous voyez, là, il faut essayer de découvrir cela. Alors, je ne vais pas plus loin pour le moment, parce que, vous voyez, ce sont des choses très, très vastes, mais au moins pour vous donner cette piste de réflexion. Alors, je crois que le père vous a posé cette question ce matin dans le cours. Il a dit, il faudrait se demander quel est le premier qui confond intelligence et raison. C'est intéressant. En tout cas, sans que ce soit le premier, dans la philosophie moderne, celui qui le dit, qui le proclame haut et fort, c'est Hegel. Alors ça, c'est sûr. Et avant lui, Kant. Et critique de la raison pure. Alors, la plupart du temps, vous voyez, on ramène l'intelligence à la raison, au sens rationnel. Alors que l'intelligence, c'est toucher la vérité selon de multiples développements. Alors, vous disiez encore cela, comment dans les différentes modalités de l'intelligence y a-t-il ce dépassement de la raison ? Alors, je ne vais peut-être pas y entrer, ce serait trop long, mais c'est vrai que je vais juste vous donner peut-être deux petits exemples. Vous voyez, je vais faire une analogie entre l'intelligence et la raison du côté spéculatif, et puis deux aspects à côté qui vous fera peut-être comprendre un peu plus, vous voyez, proche de l'expérience. du moins pour ceux qui ont besoin de voir ça de façon plus proche. Et le lien entre l'intelligence et la raison, c'est analogue du côté éthique, par exemple. En éthique, quel va être l'analogue? Où est-ce que l'intelligence émerge du côté moral, éthique? C'est quand elle découvre le bien fin qui donne le sens de toute notre vie. On saisit ce en vue de quoi on oriente toute sa vie. Et puis, l'analogue de la raison, du côté pratique, c'est la délibération. C'est le conseil. Oui, je prends un petit exemple très simple. Quand vous avez un choix important à faire dans votre vie, un choix capital qui va orienter votre vie de façon très très particulière, vous mariez, rentrez au noviciat de la communauté Saint-Jean, ou ailleurs, je ne sais pas, vous orientez dans un choix de vie qui a d'immenses conséquences, oui, vous pouvez délibérer, prendre conseil. Vous êtes dans une phase de recherche qui implique toute une information. Et si vous êtes un homme avisé, vous allez prendre conseil auprès de gens qui savent donner un conseil idoine, adéquat, c'est-à-dire qui à la fois connaissent votre situation, connaissent ce que vous êtes avec vos qualités et vos limites. Et un homme de bon conseil vous dit, écoute mon vieux, regarde-toi, tu vas faire, mais t'as les yeux plus gros que le ventre. Mais, ou alors, une mère à son fils, mais elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi, celle-ci. Elle est beaucoup trop bien pour toi. Regarde-toi. Et, voyez, le conseil, le conseil. Ou bien la mère de la fille qui dit, non, ce garçon tourne autour de ma fille, mais c'est très dangereux. Ma fille est beaucoup mieux. Lui, on ne sait pas trop où il vient. Voyez, conseil. Puis à un moment, vous avez pu réfléchir. Alors on sait demander conseil, Il y a des gens qui savent très très bien demander conseil, c'est-à-dire très bien, au mauvais sens. C'est-à-dire, ils savent exactement entendre dans les conseils ce qu'ils y cherchaient. Ouais, alors, après, ils vous disent, oui, c'est un tel qui m'a dit de faire ça, donc ça a raté, je ne suis pas responsable, c'est lui. Non. Pourquoi? Parce que quand vous avez pris conseil, phase de délibération, quelqu'un peut vous donner un conseil en fonction de ce qu'il sait. Et si vous lui avez montré que ça, alors qu'il y avait ça, il vous a donné des conseils en fonction de ce qu'il voit. Et puis, à un moment, vous dépassez le conseil et vous choisissez. Pourquoi choisissez-vous? Parce que vous voulez atteindre ce bien qui, pour vous, est une fin, qui est un certain absolu. Si votre fin est une vraie fin humaine, vous avez un moment dépassé la délibération. Oui, l'homme qui ne dépasse jamais le conseil, qui raisonne toute la journée sur ce qu'il pourrait faire tout en n'ayant pas fait, bien qu'il pourrait quand même le faire, c'est l'homme, vous voyez, qui n'a plus de détermination dans sa vie morale. Il devient, vous voyez, un homme, une girouette, comme dit Parménide. Et un conseil à droite, un conseil à gauche, et c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Le conseil, il reste dans toute la multiplicité, voyez, il en perd la tête, il ne se détermine plus. L'homme qui sait, voyez, prendre conseil à un moment, en fonction de la fin, il dit, maintenant, c'est ce choix que je pose. Voyez, quand vous posez un choix au-delà du conseil, en fonction de la fin que vous atteignez. Vous prenez un moyen parmi tous les possibles que vous aviez vus, et vous vous y orientez pour atteindre cette fin. Vous êtes déterminé. Eh bien, là, il y a un acte d'intelligence qui touche quelque chose d'ultime dans votre vie morale. C'est votre fin. Le conseil est une phase d'information, de délibération, analogue au raisonnement. C'est une phase de recherche. Mais la finalité n'est pas de raisonner. La finalité n'est pas de délibérer. Ça, c'est quelqu'un qui reste dans la délibération, c'est ce qu'on appelle le scrupule. Oui, il y a des gens scrupuleux. Ah oui, ils font le tour de tout le monastère de français de Navarre. Ils envisagent Miss Idéal. Ils ont leurs critères intérieurs, et puis ils soupèsent la réalité en fonction de ce qu'ils cherchent. Mais jamais ils ne se déterminent. Et c'est très très intéressant, vous voyez ça. Phase du scrupule, qui fait que quelqu'un, jamais, ne veut se déterminer. Vous avez des gens comme ça. Au bout de 10 ans, 15 ans, ils n'ont toujours pas posé un vrai choix. Ils restent éternellement des adolescents. C'est très curieux. Parce qu'à un moment, vous voyez, je pose un choix, je m'engage dans un choix de vie qui est le mien, dont je deviens responsable. Et c'est en fonction de quoi ce choix sera vrai, si la fin que j'ai découverte est ultime. Oui, ça, c'est l'analogue du côté éthique. Et quand je vous dis ça, je vous renvoie à, par exemple, un très beau texte d'Aristote, pour ceux qui connaissent ça ou qui aimeraient le creuser ou le développer, dans l'Éthique à Nicomaque, au livre 6, sur ce que c'est que la prudence. L'homme prudent n'est pas seulement celui qui sait délibérer. L'homme prudent est celui qui sait se déterminer en fonction d'une fin humaine qui conduit à son bonheur, dont il est, d'une certaine façon, responsable. Autre analogie, je prends cette dernière chose, comprenez bien que c'est très différent, mais il y a quelque chose d'analogue, du côté artistique. Ah, qu'est-ce qui est l'analogue de la fin, et qui est un certain absolu? C'est l'idée artistique, le projet réalisable. Ça, il est connu par l'intelligence. Mais dans une inspiration artistique et dans un choix. Puis, il y a le travail. Ah, le travail, c'est analogue à la raison, au raisonnement. Le travail est une phase de réalisation, de développement, où vous allez intégrer des outils, des techniques et toute une complexité. Et vous avez votre idée de ce qui est à faire, et ça, c'est l'intelligence qui l'a saisie. Et puis, cette intelligence, elle doit accepter que mon idée ne suffit pas, qu'il faut que j'accepte de la réaliser dans le travail pour aboutir à l'œuvre. Il faut que j'accepte de passer par ce devenir. Ah oui, et phase de réalisation, qui n'est jamais commode dans l'art. Hein. Entre mon idée, mon projet réalisable et l'œuvre, il y a une fameuse distance. Pourquoi ? Parce qu'entre deux, il y a le travail qui implique de coopérer avec une matière. Et la matière, elle n'est pas identique à votre idée, hein, loin de là. Il faut qu'elle soit petit à petit accommodée à votre idée, et vous la travaillez, c'est pas si commode. Et donc, voyez, hein, je prends ces deux exemples pour que vous compreniez bien. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui émerge, il y a un conditionnement humain, la délibération, le conseil. Puis quelque chose qui émerge, la découverte de la fin. Il y a tout le travail, l'exigence du travail, la matière, les outils, les techniques. Puis quelque chose qui émerge, ce que je vais faire avec cela comme œuvre, qui est un certain absolu. L'artiste est un homme intelligent, hein, qui n'est pas seulement un virtuose. Le virtuose, c'est quoi ? C'est le travail. Un pianiste virtuose, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a acquis 8 heures par jour, des gammes. Il a acquis une virtuosité. Pour qu'il y ait un art, et qu'il y ait une âme, une intériorité, ah, il faut qu'il ait saisi quelque chose de spirituel. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on a des tâcherons, hein, qui sont... qui tendent tant qu'ils peuvent à la virtuosité, mais on a l'impression que ça leur court après, vous savez. C'est Rodin qui dit ça. Rodin dit, quand on est face à un chef-d'œuvre, on a l'impression que ça a été fait comme en se jouant, et pourtant, tout le métier est là. Mais essayez de faire ce qu'il a fait, vous verrez que c'est pas si commode. Il a acquis le métier, le travail, mais au-delà de ça, il y a un petit quelque chose de génial qui relève de l'intelligence. C'est autre chose. Donc, vous voyez, si vous ramenez l'intelligence à la raison, vous allez ramener quoi ? L'artiste au travailleur. L'homme moral à l'homme de conseil, alors que c'est pas ça, l'homme moral c'est l'homme amoureux qui tend vers sa fin. L'homme philosophe à la logique. Et les philosophes qui ramènent tout à la logique sont des hommes de raison et non plus d'intelligence. Ils ramènent tout à l'être de raison, à des relations qu'ils peuvent faire. Ils ne saisissent plus la vérité. Oui, la sagesse n'est pas logique, hein. Elle est au-delà de la logique. C'est pour ça que, vous voyez, commencer la philosophie par la logique, c'est une très grave erreur. C'est une erreur qu'on paye cher, parce que commencer la philosophie par la logique, c'est mettre un carcan sur l'intelligence avant qu'elle pense. Et ça n'a aucun sens. L'intelligence s'éveille au contact de la réalité. Ce qui est très exigeant, oui, parce que ça veut dire que quand on entre en philosophie, il n'y a pas de méthode pour y entrer. Et ça, c'est pas commode. Et il faut accepter ce labeur. Oui. Les jeunes étudiants en philosophie, ici ou à Paris, c'est toujours les réflexions qu'ils font au début. Mais donnez-moi une méthode. Comment je vais travailler ? Débrouille-toi, mon vieux. Commence par t'éveiller à la recherche de la vérité. C'est pas commode, vous voyez, parce que ce qu'on disait ce matin, oui, quand on est dans un monde d'efficacité, c'est très séduisant la méthode. La méthode est efficace. L'intelligence n'est pas efficace, elle est contemplative. Elle s'éveille à la vérité. Et ça, c'est très très lent. Ça met pas 15 jours, ça met pas 6 mois, ça met pas 1 an, ça met des années. Aristote est resté 20 ans à l'école de Platon. Et pourtant, c'était Platon qui était un fameux idéologue. Et c'est très, très important de voir ça. Oui. Notre intelligence s'éveille lentement. Et chercher la vérité, c'est une question de vie. La philosophie, c'est quelque chose de vital. Ce n'est pas un savoir. Ce n'est pas une connaissance positive, comme l'histoire, comme d'autres choses. La philosophie, c'est la vie de notre intelligence qui s'éveille dans la recherche de la vérité. Et qui cherche à connaître ce qu'est l'homme et la sagesse. Alors on verra que la métaphysique ou la philosophie première, c'est l'épanouissement ultime, la fine pointe de cette intelligence qui cherche la vérité. C'est aller jusqu'au bout de l'exigence de la recherche de la vérité que d'entrer en métaphysique, en philosophie première. Alors, après, il y a deux questions là-dessus sur eux. Qu'est-ce que une idéologie ? Quelle est la différence entre une vraie philosophie et une idéologie ? Qu'est-ce qui fait que de la science qui est bonne, alors ça fait référence à la science, je vais traiter autre chose avant de répondre à cette dernière question. Qu'est-ce qui fait que de la science qui est bonne, on tombe dans le positivisme, qui est une perversion de la science ? Alors, justement, il y a une autre petite question là-dessus, un peu analogue. Hein. D'où vient l'idéologie ? Et c'est une question très, très importante, celle-ci. Oui, il y a quelques années, il y avait eu un article, je crois bien, ou un petit ouvrage de Étienne Borne, hein, qui était inspecteur d'éducation. Après, il y a deux questions là-dessus sur eux. Qu'est-ce qu'une idéologie? Quelle est la différence entre une vraie philosophie et une idéologie? Qu'est-ce qui fait que de la science qui est bonne, alors ça fait référence à la science, je vais traiter autre chose avant de répondre à cette dernière question. Qu'est-ce qui fait que de la science qui est bonne, on tombe dans le positivisme, qui est une perversion de la science? Justement, il y a une autre petite question là-dessus, un peu analogue, hein. D'où vient l'idéologie? C'est une question très, très importante, celle-ci. Oui, il y a quelques années, il y avait eu un article, je crois bien, ou un petit ouvrage de Étienne Borne, hein, qui était inspecteur de l'éducation nationale, et qui avait fait, je crois, une conférence, je crois, aux inspecteurs de l'éducation nationale sur ce titre, qui était assez provocateur. Avons-nous besoin d'une nouvelle idéologie? Oui, c'est intéressant. Alors, je vous dis la fin de cette. D'où vient une idéologie, hein? Est-ce de n'avoir qu'un regard sur la réalité, un regard univoque, ou est-ce avoir un regard faussé sur la réalité? C'est la même chose, hein. Alors. Oui, de fait, je crois que cette différence est très très importante à faire, voyez, entre l'idéologie, entre une idéologie et la philosophie. Voyez, la philosophie, c'est une recherche de la sagesse, une recherche de la vérité qui va aller jusqu'au bout de la vérité. Donc si je suis philosophe, qu'est-ce que j'ai? Je dirais comme a priori, entre guillemets, qui n'en est plus un. C'est que je veux chercher la vérité jusqu'au bout, sans rien arrêter de la recherche de la vérité. Si vous dites, je cherche la vérité, mais ça s'arrête là. Bien, vous n'êtes plus philosophe. Et le philosophe est quelqu'un qui ne peut pas dire qu'il s'arrête dans la recherche de la vérité. Il veut toujours aller plus loin. C'est l'intention profonde du philosophe. C'est pour ça que, si on le dit négativement, et c'est peut-être pour ça que c'est si important dans le monde d'aujourd'hui, la philosophie nous aide à nous débarrasser de tous nos a priori. Ce qui est très très exigeant. Hein. C'est une discipline de l'intelligence. C'est une recherche de la vérité qui fait qu'on n'a jamais fini de nous mettre plus proche de la réalité telle qu'elle est, surtout quand il s'agit de l'homme, et infiniment plus s'il s'agit de se poser la question de l'existence de Dieu. Et par exemple, il y a quelqu'un qui dirait « la question de Dieu n'est pas une question philosophique, c'est un a priori ». Est-ce qu'il existe un être premier, puisque des gens disent que Dieu existe? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Posez-vous loyalement la question. Et celui qui dit, a priori, l'existence de Dieu ne fait pas partie de la philosophie, il est idéologue. Il a fermé sa recherche de la vérité sur tout un aspect. Donc, la philosophie est une recherche de la vérité qui cherche à aller jusqu'à la... Oui, ce serait une des manières de définir, entre guillemets, hein, la sagesse. La sagesse, c'est qu'elle veut découvrir la vérité ultime sur toute chose. La vérité première, le plus loin qu'on puisse aller. Chercher la sagesse, hein, aimer la sagesse, c'est vouloir chercher la vérité jusqu'au bout, le plus loin que l'on peut aller, sans mettre de limite à cette recherche. Donc vous voyez, c'est pour ça que la philosophie n'est pas un savoir. J'ai fait ma licence de philo, ouais, tu parles. Hein? C'est une vie. Et c'est pour ça que si peu d'enseignants en philosophie aujourd'hui suscitent des disciples. Parce que ce ne sont pas des gens qui vivent de la recherche de la vérité, ce sont des professeurs qui ont des compétences historiques. Beaucoup sont comme ça. Alors, c'est ce qui fait qu'on a un professeur qui est pour Leibniz, un qui est pour Spinoza, un qui est pour Descartes, un qui fait de la philosophie grecque, c'est un original, il est un peu archéologue. Et à l'université de Genève, comme ça, il y a un professeur qui est anglais, qui enseigne la philosophie grecque, et puis la philosophie anglaise du XVIIIe siècle. Alors, pour faire couleur locale, il se met en habit du XVIIIe siècle pour faire ses cours. Et ça fait... c'est original. C'est pas ça qui fait que ce qu'il enseigne est vrai, hein. Est-ce que ce que dit Spinoza est vrai? Est-ce que ce que dit Aristote est vrai? Et on n'est pas aristotélicien pour être aristotélicien. On cherche la vérité. C'est ce qui fait dire qu'en philosophie, l'argument d'autorité, c'est celui qu'on emploie quand on ne sait plus quoi dire. Quand je ne sais plus quoi dire, je suis sec. Alors, dans un examen, hein, je suis face à un examinateur, et je sais par où dire qu'il a comme tendance d'être cartésien. Alors, je glisse subrepticement. Et Descartes a dit ça. Oui, très très bien, c'est bien, vous avez 18, c'est bien, oui. Il faut être habile pour passer un examen. Si on sait qu'un philosophe, un examinateur, non pas un philosophe, est cartésien, soyons cartésiens pour l'examen. Et alors on prend la couleur du terrain, mais est-ce qu'on cherche la vérité? Et c'est très important de voir ça. Hein. Alors, la philosophie, vous voyez, elle est quelque chose qui n'est pas quelque chose de où je mesure la réalité. Être philosophe, c'est vouloir se mettre à l'école de la réalité humaine, toujours plus, vous voyez. C'est une chose que, d'ailleurs, vous avez relevé une question là-dessus, qui est une petite phrase qu'on a entendue ce matin, qui était très belle. Hein. Est-ce que, la philosophie doit partir d'un endroit virginal, net, au-delà des opinions, au-delà des a priori, retrouver le contact vital, naturel, de notre intelligence avec la réalité existante. Vous voyez, ça ferait très, très à la mode aujourd'hui. On est dans un monde bio, écolo. Alors, soyons écolo philosophiquement. Hein. C'est-à-dire, retrouvons l'aspect natif de notre intelligence, au-delà des opinions, au-delà des idéologies. Et la différence, c'est quoi? C'est que la philosophie se met à l'école de la réalité, sans a priori, en voulant se laisser guider par la réalité existante telle qu'elle est, en cherchant à la découvrir. C'est pour ça que, si on est vraiment philosophe, on acquiert une intelligence qui est humble, parce qu'on se met toujours à l'école du réel. Et c'est saint Thomas qui dit cette chose très très belle, le maître du philosophe, c'est le réel existant. Et le maître du philosophe, c'est le réel existant. Et c'est très difficile aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde qui est tellement, vous voyez, surfait, où il y a tellement de voiles ou d'obstacles entre notre intelligence et le réel. Tellement d'a priori, d'images, d'opinions. Et l'information est si riche, si développée, sans qu'on ait le temps de la critiquer. On n'a pas le temps de respirer. Hein. Alors, une information après une autre, après une autre, après, oui. Hein. Après l'euro, c'est le Tour de France. Après le Tour de France, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Après, c'est quoi, voyez. Suivez, vous êtes dans le devenir, pas de pareil. Et la vérité là-dedans, elle est où? Vous voyez, c'est incroyable. On mène les gens par le bout du nez. Hein. Alors, c'est. Vous voyez, c'est pas commode de retrouver le contact vital avec la réalité. Philosopher, c'est renaître à l'amour de la vérité. Redécouvrir la réalité telle qu'elle est, oui, dans son état, on pourrait dire, hein, natif. C'est pour ça que le philosophe, aujourd'hui, aime bien les choses un peu brutes, sauvages. Il y a beaucoup d'êtres civilisés. Mais c'est intéressant de rencontrer un peu le sauvage. Et Merleau-Ponty disait ça. Merleau-Ponty disait qu'il voulait retrouver l'être sauvage. Au-delà de l'être civilisé, oui, habillé avec une redingote, habillé avec des quantités de choses conventionnelles. Et la logique est conventionnelle. Le réel n'est pas conventionnel. Au contraire, une idéologie, qu'est-ce que c'est? Une idéologie, c'est qu'à un moment, je dis, l'idée que j'ai du réel, c'est cela qui est la mesure de la réalité. Donc, vous voyez, on pourrait dire ça rapidement. La philosophie fait que nous sommes au service de l'homme. C'est ce que disait Socrate. Socrate disait, je suis envoyé par les dieux auprès de vous avec une mission, celle d'un père et d'un frère aîné, qui est de réveiller dans chacun d'entre vous le sens de la vérité et de sa dignité humaine. Donc pour Socrate, un vrai philosophe est au service de l'homme dans la recherche de sa finalité. Au contraire, une idéologie mesure l'homme en fonction d'une idée a priori. Je prends un petit exemple. Hein. Par exemple, pour Marx, l'homme égale le travailleur. Donc celui qui n'est pas le travailleur dans tel domaine, il n'est plus vraiment un homme. Donc, il est exclu de la considération humaine. Marx n'a aucune considération sur ce que c'est que l'amitié. Pour lui, c'est en dehors. Ça ne fait pas partie de sa philosophie. Oui. Pour Nietzsche, hein, qu'est-ce qui est la vérité humaine? C'est la créativité artistique. L'homme religieux, c'est un pauvre type qui ne sait pas vivre tout seul et qui a besoin d'une canne pour se rassurer parce qu'il a la trouille. Alors, il dit « Dieu existe, ça me rassure ». Mais l'homme fort, le surhomme, il est créateur de sa propre vie, de sa propre dignité, il n'a plus besoin de Dieu. Oui, donc Dieu est exclu de la question philosophique chez Nietzsche. L'idéologie nietzschéenne, c'est quoi? C'est que l'homme se réduit à l'artiste. Pour Sartre, c'est quoi l'idéologie sartrienne? L'homme est un être purement libre dans sa subjectivité, qu'il n'est que ce qu'il se fait. Il doit donc tout néantiser pour se construire lui-même à partir de lui-même. Hein, relisez, ça c'est une petite lecture vite faite. Hein. Pendant ces quelques jours, vous pouvez très bien demander ça aux frères qu'on vous le prête ou qu'on le mette à votre disposition dans une salle. Hein. Relisez, ça fait 40 pages, c'est pas long. L'existentialisme, c'est-il un humanisme de Sartre? Hein, parce que c'est les 20 ans de Sartre, alors ça se célèbre. Les 20 ans de la mort de Sartre, pardon. Hein. Donc ça se célèbre. Ça dépend dans quel sens, oui, d'ailleurs. Et Sartre dit ouvertement ça, il dit, mais l'homme n'est que ce qu'il se fait. Donc l'homme se réduit à quoi? À la liberté de l'artiste. Je me crée à chaque moment dans ma subjectivité. Est-ce que c'est vrai, ça? Et donc, vous voyez, face à un idéologue, qu'est-ce qu'il faut faire ? Montrer quelque chose de son expérience humaine que son système n'explique pas. Du coup, il est perdu. Et face à quelqu'un qui est un marxiste complètement, c'est souvent cet exemple que donne le père Philippe, parlez-lui de sa famille et de ses enfants. Il verra que son marxisme n'explique pas son amour pour sa femme. Et s'il est plus philosophe que marxiste, il verra qu'il faut qu'il dépasse son marxisme. Face à un hegelien, j'en connais un, face à un hegelien, parlez-lui de ce qui échappe à la raison hegelienne. Et montrez-lui ce qui peut échapper à ça. Et s'il est vraiment un homme qui cherche la vérité, il dira « Oui, je dis ça, je suis au fond hegelien, mais c'est parce que j'ai rien trouvé de plus fort, alors peut-être trouverai quelque chose de plus fort, je quitterai la philosophie hegelienne. » Ainsi de suite, voyez. Et il faut arriver dans une idéologie à ce qui, dans l'idéologie elle-même, est contradictoire, n'explique pas quelque chose de la réalité. Donc s'il dit qu'il cherche la vérité, où se contredit-il en mettant son système avant la réalité ? Où est-ce que la réalité n'entre pas dans son cadre ? L'idéologie, c'est faire entrer le réel dans le cadre. On a un système qu'on construit qui se développe avec cohérence. Alors, vous voyez, là, ce serait très intéressant comme question. Quelle différence faites-vous entre vérité et cohérence ? La vérité ne se réduit pas à la cohérence. Un raisonnement peut être cohérent, mais un raisonnement peut être complètement faux. Il peut être cohérent, mais faux. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur une prémisse fausse. Un raisonnement peut être cohérent. La logique regarde la cohérence de nos raisonnements. Vous pouvez avoir des systèmes idéologiques cohérents, mais est-ce qu'ils sont vrais ? Non, parce que il faut que ce sur quoi ils reposent soit une vérité. Or, la vérité n'est pas seulement la cohérence. La vérité, c'est quelque chose de l'intelligence, notre intelligence qui touche la réalité. Oui ? Si ce que vous avez compris au début est faux, vous pouvez développer sur cette erreur, de manière cohérente, tout un système qui est complètement faux, ce qui repose sur un a priori qui est faux. C'est très très important de voir ça. C'est pour ça que le raisonnement, qui est peut-être cohérent, ne s'achève jamais sur lui-même. Ah oui, bien sûr, il faut que vos raisonnements soient cohérents, mais ce n'est pas parce qu'ils sont cohérents que vous êtes dans la vérité. Parce que vous pouvez tout à fait être cohérent avec vous-même, mais être sincère, dans une cohérence extrêmement bien charpentée, bien agencée, être très sincère, mais vous reposez toute votre cohérence sur quelque chose qui n'est pas vrai, sur une erreur de fond. Et c'est quelquefois très frappant. Vous avez quelquefois des gens d'une cohérence, mais hein, vous savez, on dit, on peut pas enfoncer un coin dans son système. Ça se tient d'une logique parfaite, mais c'est faux dès le point de départ. Et, par exemple, Platon. C'est quand même plus noble qu'une idéologie, mais Platon, il développe tout un système cohérent dans la République. Le communisme des femmes et des enfants, le communisme des biens. Le philosophe roi, et il fait reposer ça sur quoi ? Avec cohérence, sur un principe qu'il estime le fondement de toute la cité. Le problème, c'est que ce principe est faux. Donc, ce qu'il dit est cohérent, c'est son système, mais ça repose sur quelque chose de faux. Et d'où la critique farouche d'Aristote en disant « Je ne peux pas accepter les idées platoniciennes ». Platon fait reposer toute sa philosophie sur les idées. Le problème, c'est que les idées n'existent pas. Donc tout ce qu'il dit à partir des idées, ça ne tient pas. Oui, c'est pour ça qu'Aristote dit « Dire que connaître la vérité, c'est connaître les idées, à la manière de Platon, c'est faire du vent et des métaphores poétiques. Oui, » c'est assez farouche. C'est la critique d'Aristote sur Platon dans la métaphysique. Oui, donc il faut bien voir ça. L'idéologie, vous voyez, elle part d'un a priori. Et elle cherche à enfermer l'homme dans ce système. Alors de fait, vous voyez, que nous le voulions ou non, nous vivons dans un monde qui est marqué par une quantité d'idéologies. J'en ai cité quelques-unes, mais elles sont multiples. Oui, c'est là que quand vous posez cette question, c'est vrai que c'est une question très délicate. D'où vient l'idéologie ? Si je vais jusqu'au bout, si l'idéologie consiste, voyez, à mesurer la réalité à partir de moi. Donc l'idéologie vient toujours dans le fond d'une attitude que les Grecs appelaient l'hubris, l'orgueil. L'orgueil philosophique. Et c'est quoi l'orgueil philosophique ? C'est qu'au fond, je considère que c'est ma pensée qui mesure la réalité. Alors que si je suis... Si je cherche à être réaliste, c'est la réalité qui mesure ma pensée. Et ma pensée ne s'éveille, ne s'actue que face à la réalité existante. Et donc la question, on y reviendra avec le père dans les cours qui vont venir, quel va être le point de départ d'une métaphysique ? Est-ce que le point de départ de ma métaphysique, c'est ma pensée du réel, ou est-ce que c'est le réel existant saisi à travers toute mon expérience ? Ce qui pose la question, est-ce qu'on peut avoir un point de départ virginal, net, où il y a vraiment un éveil de l'intelligence au contact du réel. Oui. Autrement dit, la question que je vous pose, et elle est très importante, hein, où notre intelligence s'éveille-t-elle à sa vie propre? Où entrons-nous, en philosophie, dans la recherche de la vérité jusqu'au bout? Oui, où elle s'éveille, notre intelligence? Oui, c'est quand même très très beau de regarder ça, hein, de saisir, oui, parce que, oui, une mère qui vient d'avoir son premier enfant, hein, elle panique tout le temps parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il se réveille. Alors elle se lève 10 fois par nuit pour aller vérifier s'il dort ou s'il n'y a pas besoin de quelque chose, etc. Et elle a un instinct maternel, oui, et elle guette son éveil. Et après, elle guette son premier éveil, oui, hein, premier sourire, premier regard. Oui, hein, une mère a tous ces souvenirs-là. Mais oui, et l'éveil de l'intelligence, alors? Où, hein, le cyclope ouvre-t-il son œil? Oui, hein, où votre intelligence s'éveille-t-elle? Oui, oui, quel était ce serait... Hein, si on avait, vous voyez, un curriculum vitae philosophique de chacun, on aurait sur la carte d'identité, hein, premier éveil de l'intelligence, ça a été ça. Oui, ce serait très très touchant, très amusant. Puis on dira, ah oui, ce frère, il avait, il s'était éveillé, c'est, on aimerait que ça continue. Alors, dans un noviciat, on voit des intelligences qui se réveillent de nouveau, qui se renouvellent, qui s'éveillent à la recherche de la vérité, de vieilles, racornies, rabougries, annidonnées qu'elles étaient par des idéologies. Et elles redécouvrent quelque chose de naturel. Oui. C'est tout un travail. Et dépasser les idéologies pour redécouvrir l'éveil de l'intelligence dans la recherche de la vérité. Ça, c'est le point de départ de la sagesse. Et c'est ça la métaphysique jusqu'au bout. Hein. C'est saisir parfaitement l'éveil de l'intelligence. Alors, qu'est-ce qui s'oppose le plus à ça? C'est l'orgueil. Hein. Je ne parle pas ici de l'orgueil au sens moral. Hein. Je ne parle pas ici d'une faute d'orgueil. Je parle de l'attitude intellectuelle, hein, l'orgueil, le philosophe peut en parler, hein, de l'orgueil intellectuel qui consiste, hein, à dire que l'intelligence humaine mesure la réalité existante. Et si elle la mesure, eh bien elle finira par dire, si on va jusqu'au bout, hein, que l'intelligence, que le réel n'existe qu'en fonction de ma pensée, ce que disent des quantités d'aujourd'hui. Hein. Le réel n'existe qu'en fonction de ce que je pense de lui. Quand je ne pense pas à lui, il ne m'intéresse pas. Mais il a existé avant que vous ne pensiez, j'espère. Oui, vous n'avez pas fait le monde. Mais l'idéologue a le culot de dire que le monde n'est intéressant qu'en tant qu'il le pense. Non ? Le monde existe avant que je le pense, et heureusement qu'il y a la réalité existante, mesure ma pensée. C'est elle qui va me conduire jusqu'à une réalité première, si elle existe, au-delà de l'homme. Et c'est pour ça que l'orgueil philosophique, s'il va jusqu'au bout, hein, il finira par être forcément source d'une idéologie athée, qui considère que l'homme est mesure de toute chose. Vous voyez, c'est déjà la parole de Protagoras. L'homme est mesure de toute chose. Mais c'est la vérité de toutes les philosophies, de toutes les idéologies, hein, modernes qui sont nées dans cette attitude où l'intelligence, à un moment, se pose comme mesure de la réalité. Et donc ça commence, hein, avec qui? Ce serait intéressant de se demander. Et où naît, et faites ce partage des eaux, hein, où naît la philosophie qui cherche la vérité, où va naître l'idéologie qui repose sur un primat du sujet sur la réalité. Et ça, c'est un point très très important. Le partage des eaux, la divergence entre les deux. Et cette petite remarque d'Aristote, puis je m'arrête là, hein, et les autres questions, on les gardera pour demain. C'est normalement Père qui répondra à vos questions demain soir. Hein. On fera le soir une séance de réponse aux questions avec lui. Donc, oui, c'est Aristote qui fait cette petite remarque, je termine là-dessus. Ça aussi, vous pouvez lire ce texte, hein, peut-être garder cette référence et vous le retrouverez. Hein. Ça se trouve dans le traité du ciel, hein, le Decello d'Aristote, tout au début du livre premier, où il dit, hein, que la connaissance du point de départ de la philosophie n'est pas sans importance. Parce que d'une petite déviation à l'origine naissent d'immenses conséquences au terme. C'est vrai, oui. Donc, vous voyez, il y a une très belle question à se poser. Hein. Quel est le point de départ d'une métaphysique qui cherche la vérité? Quel est son point de départ? Parce que de ce point de départ, de la vérité de ce point de départ, vont dépendre une quantité de conséquences. Une petite déviation à l'origine a d'immenses conséquences au terme de la philosophie. Et oui, alors, la différence entre idéologie et philosophie, au point de départ, ça paraît peu de choses. Oui, intelligence et réalité, bon, le tout, c'est de se retrouver. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est l'être qui mesure la pensée?
Est-ce que c'est la pensée qui mesure l'être? Et la question est là. L'ordre entre eux. Oui, c'est. Alors là, Hegel fait une remarque qui est juste. Il dit: le problème fondamental de la philosophie occidentale, c'est de comprendre en vérité les rapports de la pensée et de l'être. Et c'est vrai. C'est ça qu'on appelle le problème de la vérité. Hein. La vérité, est-ce que c'est le réel correspond à ce que je pense? C'est aussi simple que ça. Ou bien est-ce que c'est ce que je pense correspond à ce qui est? Oui, déviation entre les deux. Et Hegel a cette phrase, vous allez comprendre jusqu'au bout. Hein, il dit: on dit classiquement que la vérité, c'est que mon intelligence est relative à ce qui est. Moi, j'ai une conception différente de la vérité. La vérité, pour moi, c'est que le réel corresponde au concept initial. Ainsi, pour moi, un véritable ami, c'est un ami qui correspond au concept que j'ai de l'amitié. Et donc, il faut qu'il rentre dans mes cadres. S'il ne rentre pas dans ce que je pense de l'amitié, ça ne peut plus être un ami. Donc, c'est moi qui le mesure, donc je ne l'aime plus. Hein. Mais voyez les conséquences du côté de l'amour. Hein. Si l'intelligence mesure la réalité, quelles sont les conséquences du côté de l'amour? Ah oui, je pourrais terminer là-dessus en disant: une idéologie, je crois qu'elle ne peut plus saisir les rapports entre l'intelligence et l'amour d'une façon vraie. Parce que si vous êtes idéologue, à un moment donné, l'amour est chassé de votre philosophie. Parce que dans l'amour, vous acceptez d'être relatif à un autre. Que la bonté de l'autre vous dépasse et vous attire. Et c'est pas très commode d'être délogé, hein, alors qu'on est un vieux garçon dans ses pantoufles. Pas commode. Oui. Quand vous êtes dans vos pantoufles, voyez, vous n'aimez pas. Vous mesurez. Vous organisez. Oui. C'est ce qui faisait dire à Platon que l'amour était à nu-pieds. Il n'a pas de pantoufles. C'est pour ça que les frères mettent des sandales.